Merci pour votre accueil cette journée ici avec vous. Prendre du temps ensemble dans la présence de Dieu et surtout autour de sa parole pour édifier notre foi, pour nous amener encore à découvrir la grâce et l'amour de Dieu pour nous. Et ce que nous avons chanté est important, « Je suis guéri », de savoir le confesser. Ça dépasse tout entendement, ça dépasse toute logique humaine, mais c'est aussi une expérience que l'on peut faire avec Dieu. Et que tout à l'heure, à l'issue de ces moments, vous puissiez dire, « Ah ben tiens, au fait, ma douleur, ma souffrance, cette femme qui est venue toucher le bord du vêtement de Jésus, elle a su. Il n'y a pas eu besoin d'un examen après. Elle savait que sa perte de sang était terminée. » Et le Seigneur a encouragé cette femme dans la foi. Oui, attendez-vous au Seigneur dans ces moments, depuis qu'on est là en train de chanter, ou là en partageant la parole de Dieu, à ce que l'Esprit de Dieu vous visite, vous relève, vous restaure, vous communique la paix dont vous avez besoin peut-être dans votre âme. Le Seigneur veut vous faire du bien. Je vous invite à faire une lecture dans l'Évangile de Luc, au chapitre 16. C'est une parabole que vous connaissez sûrement, la parabole de l'homme riche et du pauvre Lazare. Vous avez, je pense, déjà entendu cela. On va y revenir quelques instants. Luc, chapitre 16, verset 19. « Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui, chaque jour, menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre couvert d'ulcère du nom de Lazare était couché à son portail. Il aurait désiré se rassasier de ce qui tombait de la table du riche. Même les chiens venaient lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et fut transporté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche aussi mourut et fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux. Et en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, que de même Lazare a eu les maux. Maintenant, il est ici consolé, et toi, tu souffres. En plus de tout cela, entre nous et vous se trouve un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ne puissent le faire et qu'on ne parvienne pas non plus de là vers nous. Le riche dit, « Je te demande donc, Père, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères, qui leur apportent son témoignage, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Et il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un ressuscité d'entre les morts. » Amen. À travers de cette parabole, Jésus veut nous enseigner sur quelques réalités dans de l'au-delà. Ce n'est pas le terme de ma pensée cet après-midi. Je reviendrai des choses plus spécifiques dans quelques instants, mais je veux quand même toucher mot de ces quelques réalités célestes, spirituelles, qui se trouvent eh bien, au-delà de notre monde matériel, humain, qui est le nôtre, et terrestre. Et Jésus nous parle de l'après. Comme je dis, ce n'est pas là l'objet de mes propos, mais cette semaine même, alors que je m'entretenais avec une personne qui posait plein de questions, et ça vous savez, dans les conversations, ça roule, et puis d'un sujet, on le finit à peine qu'on passe à un autre, et puis, ah oui, puis il y avait cette question, et puis, voilà, et puis on en est arrivé là, et puis de ce que cette personne voulait me poser des questions, justement, sur les morts, etc., ben, je suis revenu tout simplement à ce que Jésus nous enseigne. au travers de cette parabole, même s'il donne des choses très très simple, de manière très succincte, mais ça nous donne déjà un aperçu. Oui, quand on meurt, l'âme retourne à Dieu. Alors, il y a deux lieux. Il y a un lieu de paix et un lieu de souffrance. Le lieu de paix, c'est dans la présence de Dieu. Le lieu de souffrance, c'est le lieu où on est loin de la présence de Dieu. Et qui dit être loin de Dieu, c'est être exposé à la souffrance, même dans l'au-delà. Parce que ce lieu est privé de tout ce qui est de Dieu lui-même. Et c'est donc être exposé à la douleur, à la souffrance. C'est une réalité. Et il n'y a pas de passage d'un lieu à l'autre possible. Comme Jésus nous enseigne qu'il n'y a pas de possibilité des morts vers les vivants. Et je parlais avec cette personne qui me parlait, mais alors la prière des morts, j'ai dit ça, non. Ceux qui sont morts dans la foi sont auprès de Dieu, et ceux qui ont refusé Dieu, eh bien, sont dans le lieu de tourment. Il n'y a pas de passage possible d'un côté à l'autre, ni de eux vers nous. Il faut que ça soit bien clair. Oui, mais alors, j'ai dit, là, vous soulevez alors un grand sujet. Parce que certains me rapportaient que certains sont allés voir des personnes, des voyants ou médiums, et qu'ils ont entendu le défunt. Je dis oui, la parole est très claire sur ce sujet, c'est la puissance occulte, le monde des ténèbres. Et ce qui se cache derrière ces choses, ce sont les démons qui font croire que le défunt, il parle. Mais c'est du mensonge, c'est faux tout cela. Jésus est bien clair, il n'y a pas de possibilité. Et même quand on le voit, l'homme demande à ce que quelqu'un aille. La chose est très claire. Il n'y en a qu'un seul qui est revenu, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc, ce n'est pas l'objet de mes propos, mais je tiens à le souligner parce qu'il y a beaucoup de confusion aujourd'hui dans notre monde actuel. Le monde spirituel, on mélange entre ce qui est de la lumière et des ténèbres, et on ne sait pas qui relève de quoi et de comment. Oh, on veut du surnaturel parfois à tout prix, et on s'expose dangereusement. Moi, je m'arrêterai cet après-midi sur le cœur de ces deux hommes. Et Jésus nous interpelle d'ailleurs sur ces deux hommes. Et on peut être choqué par les propos que Jésus a quand il présente l'homme riche qui portait des vêtements de luxe. Bon, on connaît, on a ça sous les yeux tous les jours. On a aussi sous les yeux les pauvres, les malheureux qui n'ont rien ou qui sont dans le dénouement. Hein. Alors, je tiens à souligner qu'il n'y a pas de mal à être riche. Je vous rassure peut-être si c'était le cas. Il n'y a rien de mal à cela. Hein. Et vous pouvez remercier Dieu d'avoir le nécessaire, d'avoir le vêtement, la nourriture, le logis, et d'avoir le nécessaire pour votre confort. Bénissez Dieu pour cela. Maintenant, il y a beaucoup de choses qui se passent quand même dans le cœur. Alors, il y a deux personnages assez contrastés. Hein. Que Jésus nous présente, et Jésus veut attirer notre attention sur un dénommé Lazare. Il était là, couché devant la porte ou le portail, il était couvert de plaies, même les chiens venaient lécher ses plaies, c'est pas très joyeux, hein. C'est dire son état de santé, tellement il était délabré, et il aurait voulu se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, mais... Et Jésus nous interpelle, et il attire notre attention. Oh, il n'y a rien d'attirant hein, à considérer les choses, mais Jésus n'attire pas notre attention sur l'état même, bien que c'est sa place et son importance. Personne ne désire être pauvre, on ne choisit pas. Mon grand-père... qui était né donc, le siècle encore avant, disait, il manifestait toujours un peu d'humour, il dit qu'il aurait voulu naître dans un château avec des chandelles et des servantes et des serviteurs là à sa disposition, et il n'y avait que la chandelle de rousine. Alors, pour ceux qui... les plus anciens, c'était un mélange fait de cire avec ce qui vient des pains, là, de la résine. Et les pauvres, ils n'avaient que ça. Et généralement, ça pétillait, il fallait faire attention, sinon ça pouvait mettre le feu dans la maison. Mais et c'était le moyen pour éclairer pour les pauvres. Et mon grand-père, il mettait un peu d'humour pour dire cela, et on ne le choisit pas. Personne ne veut être pauvre. Enfin, personne ne désire être pauvre. Tout le monde désire être riche, n'est-ce pas? Maintenant, il y a riche et riche. Il y a des riches, je leur laisse leur richesse. Quel souci! Hein, vous le savez, hein, que les gagnants au loto, ils sont accompagnés psychologiquement, ils sont conseillés, il y a des équipes qui les accompagnent, sinon ils perdent la tête. C'est une réalité. Donc, il y a des places que je n'envie pas. Maintenant, oui, on apprécie un certain confort, un certain nombre de choses, et merci Seigneur si nous les avons. Maintenant, il y a ce pauvre-là. Il n'y a rien d'attirant chez cet homme. Il est plutôt repoussant. Et pourtant, c'est un peu sur lui que Jésus nous invite à considérer, à regarder. Parce que Jésus ne veut pas regarder simplement à son apparence, à sa situation. Il veut regarder au cœur. Cet homme, il était là. Un riche à côté faisait bonbonce. Un est nommé Lazare, il est pauvre. L'autre, il n'a même pas de nom, on ne sait pas. On sait simplement qu'il était riche. C'est dire l'impact qu'il avait de par ses richesses. C'est ce qu'on retenait de lui. Il était riche. Est-ce là ce que l'on retient? Alors Jésus, il nous montre un peu l'extérieur de la vie du riche. Mais quand il nous présente Lazare, il nous dit un peu sa condition, mais il nous parle aussi un peu des secrets de son cœur. On apprend qu'il aurait voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche. C'est pas grand-chose, hein? C'est pas un rêve bien ambitieux, quand on en arrive là. Hein? Quand on voit sur Briançon les migrants qui arrivent, qui n'ont pas mangé depuis plusieurs jours, qui n'ont pas parfois beaucoup de vêtements ou qui n'ont pas eu de douche depuis des jours et des jours. Ça touche, hein, et qui vous raconte un peu ce qu'ils ont vécu et ce à quoi ils ont été confrontés. Nous avons encore vu dans l'actualité, encore ces derniers jours, où certains sont vendus comme esclaves. C'est terrifiant. Cet homme, il voulait juste quelques miettes qui débordaient là et qui tombaient de la table du riche. Dans son cœur, on ne sent pas d'amertume, il ne désire pas la mort du riche, il ne souhaitait pas non plus son malheur, il aurait juste voulu assouvir sa faim. Pas grand-chose de ce que l'autre avait en trop. Ça doit nous interpeller quelque peu, nous avons souvent plus que de nécessaire, et nous devons veiller à cela, de penser à ceux qui n'ont pas, et dans la mesure du possible, de venir en aide. Il aurait simplement voulu se nourrir. Alors, il y a cette porte à laquelle on le place là. Cette porte, c'est être tout près, mais pas dedans. C'est être tout près, mais être privé. Il y a une forme, je dirais, de ceux qui le laissaient là. Peut-être. Aujourd'hui, peut-être ce sera ton jour de chance. Hein, on raisonne souvent comme cela. Mais ceux qui le mettaient là, ou qui l'abandonnaient là, assis à sa misère, il y a une forme d'insouciance. On ne mesure pas, quand on regarde parfois certaines personnes, on ne mesure pas ce qu'elles vivent et ce à quoi elles sont confrontées. C'est là la part de ce pauvre à la porte du riche. Mais là où Jésus veut en venir, il va nous dire que le pauvre mourut et les anges vont le porter dans le sein d'Abraham. Le riche, il meurt aussi et il est enterré. Alors, je ne sais pas en quelle classe il a eu ses funérailles, mais voilà la chose. Mais Jésus dit que ce riche, il était au séjour des morts, en proie au tourment ou à la torture, et que là, il va voir de loin. Et il va voir Abraham et Lazare. Et Jésus veut nous interpeller sur l'après. Dans le sein d'Abraham, c'est une expression hein, qui nous parle eh bien, du bonheur qu'il y a dans le ciel sous l'image d'un lieu de paix, de repos, de joie, là où eh bien, on éprouve la présence de Dieu, où on est comblé et où on est consolé. Généralement, il est question du saint, ici d'Abraham, et dans les pratiques, on ne pratique pas cela dans notre culture, mais autrefois, on mangeait, on était à demi-couché, et puis le plus proche, le plus jeune, s'appuyait comme un enfant s'appuie sur la poitrine donc d'un parent, de la maman ou du papa. C'est l'image de l'accueil, bien sûr, de la consolation, du repos. Et ce Lazare, il est là, ainsi tout près d'Abraham, dans le repos. Pour le juif, Abraham est une personne considérée, respectée. Hein, et quand Jésus parle d'Abraham, ça, c'est quelque chose qui les interpelle, ceux qui l'écoutaient. Hein, et ces notions de richesse, de foi, bien sûr, il est le père des croyants. Et c'est la bénédiction reçue, éprouvée. Et Abraham a reçu la bénédiction selon sa foi. Et c'est toute une image. Et c'est vrai que ça contraste avec cet homme Lazare qui a été dans la misère. Mais il est là, consolé. Il y a comme un renversement de situation. Vous l'avez remarqué, la mort a changé la donne. La chose est différente. Dans l'Écriture, c'est souvent, et j'ai relevé ces paroles dans l'Évangile de Luc, c'est Marie qui chante cela dans son cantique. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles, il comble de biens les affamés, il renvoie les riches les mains vides. Oui, Dieu est celui qui change les situations. Alors, n'attendons pas la mort pour faire ce qui est nécessaire auprès des pauvres, bien sûr. Si nous sommes en mesure de le faire, faisons-le. Soulageons les maux et les souffrances physiques de certains qui sont parfois et qui vivent parfois pas très loin de nous. Hein, ne les laissons pas dans leur pauvreté, leur misère. Nous sommes avertis par l'Écriture qu'on aura toujours des pauvres. La chose est claire. Mais Jésus dira aussi dans Marc 14, quand vous voudrez, vous pourrez les secourir. C'est-à-dire, c'est à notre portée, c'est à nous de le faire. Faisons-le. Mais quand Jésus nous raconte cette parabole de ce riche et de Lazare, c'est qu'il a quelque chose d'autre à nous enseigner. Dans la suite, on s'aperçoit que ce riche demande à être secouru. Pourtant, Lazare n'a jamais crié après lui, il semblerait. Il n'a jamais rien dit. Et le riche, là, ben son confort, il l'a plus, il semblerait. Et alors, il est en proie au tourment et il va crier. Alors, attention, gardons-nous de matérialiser la chose céleste. Parce qu'on passe dans une dimension spirituelle et céleste qui n'a rien à voir avec les choses de la terre. Mais il y a des notions qui nous parlent. Cet homme est dans la souffrance morale et spirituelle. Il est éloigné de Dieu, il est privé de la présence de Dieu qui pourrait être sa consolation. Alors, il est en train de demander de l'eau. Il demande cela à Abraham. Hein. Quand je disais que la chose était renversée, ça équivaut aux miettes que Lazare aurait pu avoir, qu'il n'a pas eu. Hein, et il demande peu de choses. Mais même mort, même en proie à la torture, à la souffrance, cet homme, ce riche, continue à agir en mauvais riche. Comprenez ce que je veux dire. Il est dans une mentalité. De son vivant, il avait une certaine mentalité. Même mort, il a la même mentalité. Parce que si vous regardez bien, le pauvre pour lui, le plus petit que lui, reste et doit être son serviteur. Qu'il me donne de l'eau. Qu'il dira plus loin, eh bien, envoie-le dire à ma famille. Enfin, il reste son serviteur. Lui, il est toujours au-dessus. Mais c'est lui qui est pauvre, finalement, dans le fond. Jésus nous interpelle sur le fait de nos conditions de vie. On est riche, on est pauvre, on peut mieux faire dans certaines situations, mais la richesse et la pauvreté, on ne la choisit pas forcément selon le contexte où l'on est né ou ce qui peut se passer dans la vie. Mais ce n'est pas ça l'important. Bien qu'on pourrait toujours faire mieux quand on a certains biens pour aider le pauvre. Mais Jésus nous interpelle par les dispositions de cœur qui sont chez ces hommes. Ça ne frappe pas le regard. Ça, c'est pas quelque chose de flagrant, mais ça détermine leurs conditions de vie. Qu'en est-il aujourd'hui pour nous ? Quelle est notre mentalité ? Qu'est-ce qui nous préoccupe ? Qu'est-ce qui nous anime ? Qu'y a-t-il dans notre cœur ? Et la réponse d'Abraham sera très claire pour mettre en évidence cet égoïsme chez le riche, cette pensée d'être servi toujours, de vivre pour soi, d'avoir comme objectif que ses intérêts, de ne rien vouloir partager ou donner aux autres, même pour Dieu, de ne même pas avoir cette ouverture de cœur, cette disponibilité, cette disposition de pouvoir donner, parce qu'il a gardé son cœur pour lui. Finalement, le pauvre, il n'est pas là où on le pense. Le pauvre, il est dans cette attitude du mauvais riche. On dit « mauvais riche » parce que justement, il est animé de pensées qui sont mauvaises et qui lui font passer à côté de tout. Chez lui, on ne ressent aucun moment de repentir. Je ne sais pas si vous avez regardé. Vous avez lu avec moi, à aucun moment il dit « si j'avais su, j'aurais fait autrement ». J'aurais dû avoir une autre conduite. J'aurais dû avoir un autre comportement. Oh, il va demander à Abraham, eh bien, qu'on envoie quelqu'un pour sa famille. Mais c'est simplement pour les faire échapper. Il ne demande pas à dire, attention, il faut qu'ils veillent à ce que leur cœur change et se dispose autrement. Non, non, il n'y a pas aucun repentir. Dans sa conscience, il n'y a aucun changement. Aucun changement de cœur. Et c'est ce que veut faire ressortir Jésus. Qu'est-ce qui nous anime aujourd'hui ? Est-ce qu'on veut rester dans nos idées, nos pensées, notre orgueil, notre suffisance ? Et ça va au-delà de notre niveau social, des biens que l'on a ou n'a pas. Quelle est notre disposition ? Le pauvre, Lazare, on n'en sait pas grand-chose, mais combien il a dû de fois demander à Dieu le secours, l'aide qu'il a dû recevoir, avoir, de diverses manières, par d'autres personnes que ce riche. Mais son cœur a fait qu'il s'est rapproché de Dieu. Ça lui a donné d'entrer dans la richesse de Dieu et d'être consolé. Et le riche, qui avait tout ce qu'il fallait, eh bien, il n'a pensé qu'à lui-même, dans son intérêt, dans ses désirs. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans notre cœur ? On s'aperçoit que ce riche, alors qu'on lui parle, on lui dit, on lui explique les choses, il persiste dans son erreur, il s'imagine que si on va dire à ses frères, au travers d'un mort revenu à la vie, ça produirait chez eux eh bien, un changement, mais il nous est dit que ce n'est pas possible. Abraham dit non. Et leur dit simplement, eh bien, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Nous avons tout ce qui nous est nécessaire. Nous avons toute la parole de Dieu, la Bible, la parole de Dieu, parole inspirée, qui nous parle. Et Dieu veut parler à notre cœur au travers de tous les passages prophétiques, de tous les passages qui nous annoncent la venue du Sauveur, qui nous parlent de notre cœur, de notre disposition, qui nous parlent de l'espérance, de la vie éternelle, de la réconciliation avec Dieu par Jésus-Christ. Est-ce que nous allons nous laisser persuader ou on attend quelque chose de plus? Abraham est très clair. S'il n'écoute pas Moïse et les prophètes, ils n'écouteront pas plus un ressuscité d'entre les morts. Ça peut vous paraître étonnant, mais pourtant c'est la réalité. Jésus a fait des miracles. Il a ressuscité des morts. Et il a ressuscité un autre dénommé Lazare, il a ressuscité le fils de la veuve de Naïm, il a agi, il a fait tant de miracles. Mais même au sujet de après la résurrection de Lazare, il nous est dit qu'on voulait faire mourir Jésus parce qu'il avait fait des miracles. Au lieu de se laisser interpeller, de dire « Ouah, il y a quelque chose là, quelque chose qui s'est passé, qui… » Non, non. On s'aperçoit que l'homme, dans son cœur, quand il reste borné. N'est-ce pas? Qu'est-ce qui nous motive? Vers quoi portons-nous nos intérêts? Quels sont nos désirs? Est-ce que nous sommes à même de regarder en nous-mêmes et de dire « mais je cours après quoi? Je veux quoi? Je veux avoir raison? Je veux nier les évidences? Je veux passer outre? Ou je me laisse interpeller par Dieu lui-même, par les prophètes ?» Se laisser persuader, se laisser convaincre, croire à la vérité, à la justice. C'est être amené à être convaincu de péché, de justice et de jugement pour passer par la repentance. Or, l'incrédulité, l'amour de ce monde empêche l'amour des richesses, on pourrait mettre encore... empêche cette conviction de se produire. C'est une résistance à Dieu. Et tout ça, ça réside dans notre cœur. Tout cela a son siège, je dirais, dans le cœur. Laissons Dieu nous persuader, nous convaincre. Avons-nous un cœur qui est capable de dire, « Bien, je veux considérer les choses autrement. » Peut-être... je n'ai pas compris certains aspects, certaines choses. Je n'ai pas saisi, mais je veux les découvrir. Ça représente un défi pour nous. Ça bouscule beaucoup de choses. Peut-être on va se dire, ah, qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Qu'est-ce qu'on va dire de moi? Mais vous connaissez l'adage. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'idée. Dans le sens que... oui, ça arrive à tout le monde d'avoir cru certaines choses, d'avoir pensé certaines choses, et avec le temps, on se rend compte, j'ai pensé ça, mais la réalité, c'est ça maintenant. Et sur le plan spirituel, est-ce qu'il peut en être de même? De dire, j'ai pensé, j'ai cru, mais je veux me laisser encore convaincre par Dieu aujourd'hui. Parce qu'il en va de l'enjeu de notre vie. Si nous ne changeons pas aujourd'hui, eh bien on va demeurer comme cela aussi, jusque dans l'éternité, mais loin de Dieu. Est-ce qu'on est en mesure de changer? C'est la foi en Dieu. Alors, nous qui venons de méditer cette parabole, nous laisserons-nous convaincre? Ça, c'est la responsabilité de chacun. Celui qui est revenu d'entre les morts, c'est Jésus. Il s'est révélé, il s'est manifesté après sa résurrection, il a été avec les disciples et même jusqu'au moment de son départ où il était retourné dans la gloire, L'Écriture nous dit que même quelques-uns eurent des doutes. C'est dire si dans notre cœur, c'est enraciné cela. On est devant le ressuscité, mais encore, on peut avoir du doute, mais il ne faut pas rester dans le doute. Dire « Seigneur, convainc-moi ». Je veux être convaincu des réalités célestes, spirituelles, et être convaincu par rapport à moi-même, à ce qu'est ma vie, et convaincu par le fait de ta présence dans ma vie, par le fait de ton salut, du pardon de tes péchés, de mes péchés, le pardon que tu me proposes. Laissons-nous toucher par le Seigneur. Jésus nous invite dès à présent à adopter de nouvelles dispositions de cœur. La balle est dans notre camp. Ne regardons pas aux choses extérieures. On s'aperçoit que ce n'est pas l'important. Même si ça a sa place, c'est sa valeur. Mais l'important, c'est notre cœur. On va prier le Seigneur que dans votre cœur, vous puissiez dire « Seigneur, je veux faire un pas de plus. Je ne veux pas rester dans mes idées, mais je veux me laisser convaincre. » Seigneur mon Dieu, merci pour ta parole qui est là et qui veut nous parler. Parler à notre cœur, à notre conscience. Parler au fond de nous-mêmes. Tu veux te révéler, tu veux te faire connaître. Et tu ne viens pas pour nous juger, nous écraser. Tu viens nous témoigner de ton amour et tu veux nous donner la possibilité d'abandonner les choses pour en découvrir des nouvelles, pour nous détourner de la mort pour aller vers la vie. Seigneur mon Dieu, tu veux nous donner d'abandonner les ténèbres pour nous saisir de la lumière. Tu veux nous donner de nous saisir de ce qu'il y a de meilleur. Tu vois nos cœurs, tu les connais. Et je sais que tu vas y intervenir que si on te donne l'accès, la possibilité. Seigneur, que nous puissions te dire, oui Seigneur, révèle-toi à moi et donne-moi de saisir ce qu'il y a dans la réalité. Je ne veux pas rester avec mes idées, mes concepts ou mes seuls désirs humains. Seigneur, visite chacun par ton Saint-Esprit et révèle-toi au nom de Jésus. Amen.